Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
L'interview du jour.
Bonjour à tous, Bérénice pour RDWA sur 107.5 FM et rdwa.fr. J'ai la chance d'avoir avec moi en studio Michel Gentil et Shaimail Matra. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous pouvez peut-être commencer par le début. Comment vous vous êtes rencontrés ?
Ah, bonne question. Il y a longtemps qu'on se connaît. C'est pire que Balladur, ça fait plus de 30 ans. Donc, et on s'est rencontrés à Paris. Puisque Shaimail est un percussionniste qui jouait dans un groupe très connu qui s'appelle Gong. Et puis, moi, je suis un guitariste beaucoup moins connu, mais on a dû se rencontrer une fois par mon frère dans un restaurant, en fait. Puis on a décidé de se rencontrer. Et on a commencé comme ça. Et finalement, ça ne s'est jamais arrêté, parce que comme on aime beaucoup chercher, on a fini par trouver des choses. Puis comme on aime beaucoup improviser, on garde une fraîcheur dans notre musique. On s'amuse toujours autant, quoi. À chaque fois, ça évolue. Lentement, mais sûrement. Et ça n'arrête pas. Donc, du coup, notre spectacle continue sous des formes les plus diverses. On en reparlera peut-être tout à l'heure.
Vous improvisez ensemble, donc vous composez aussi ensemble ?
Oui, la composition commence toujours par l'improvisation. De toute façon, y a des gens qui composent dans leur lit en écrivant des notes, et c'est génial aussi. Mais ça part toujours d'une idée, et cette idée, elle nous tombe dessus. Donc il y a un caractère improvisatif dans toute composition. La différence entre composition et improvisation, peut-être je dirais que l'improvisation, c'est une composition qui se fait dans l'instant. En fait, c'est drôlement dur, hein, finalement. Ça prend une vie de travail, quoi. Peut-être même un peu plus. On n'est jamais, on n'arrive pas à la perfection dans ces, mais on la travaille toujours, quoi.
Et donc, vous êtes venu nous présenter votre dernier CD qui s'appelle Intuition.
C'est aussi le nom de notre duo. Il y a beaucoup, beaucoup d'instruments, instruments essentiels comme guitare 12 cordes, gambard, métallophone, des tablas.
Des cymbalettes.
Des gongs. Et autour de ça, il y a, chaque fois, on amène, c'est ce qu'on. Entre nous, on dit, il y a des surprises. Chaque fois, il y a des nouveaux sons, nouveaux instruments. Parce qu'on cherche toujours, dès qu'on trouve un son qu'on ne connaît pas, on dit, il faut absolument. On utilise ça dans notre spectacle. Et voilà, et puis aussi beaucoup d'associations des sons.
Vous jouez beaucoup avec les surprises des associations de différents sons ensemble.
Oui.
Une genre de provocation mutuelle et spontanée, si vous voulez.
C'est ça. Sur une base, les sons sont des sons acoustiques, riches. Donc on fait aussi découvrir souvent des instruments que les gens ne connaissent pas forcément, ou même des choses qui sont pas forcément utilisées comme des instruments, mais qui marchent drôlement bien comme ça aussi. Donc tout nous est bon pour faire quelque chose qui, pourvu que le son soit riche. Et donc voilà, il y a un caractère aussi très important de ce côté, c'est-à-dire on est des passionnés de son tous les deux. On s'est rencontrés, je crois, beaucoup par ça. Et différemment, on se retrouve tout à fait sur la notion du son acoustique riche. À partir de là, notre travail continue.
Mais justement, c'est ça. Chacun a son bagage sonore. Oui. Chacun a toutes ses sonorités qui sont ancrées dans lui.
Oui.
Et comment se passe cette réunion ? Comment s'est passée peut-être la première fois que vous avez joué ensemble, cette réunion entre vos deux traditions sonores, vos deux bagages ?
Parce que Michel, il a déjà voyagé en Inde. Et donc, il avait déjà ses sonorités dans la tête. Yeah. Et donc, ce n'était pas difficile. Il était aussi habitué aux musiques modales. Donc, il facilite beaucoup. Parce que tous nos instruments sont parfaitement accordés quand on joue ensemble.
Hein, oui, c'est ça.
Qui facilite aussi cette.
Mais oui. Et de ton côté, toi, tu es arrivé à Paris, tu as passé des années à Paris, donc Shaimail, il connaît très bien le monde occidental, donc il a pu aussi faire cette démarche vers moi, comme moi j'ai pu faire cette démarche vers lui. Ouais. Donc là, il y a eu un échange réel qui s'est créé. Et puis, vous savez, les musiciens, c'est comme ça, ils font de la. Je le dis souvent, mais je me répète peut-être un peu, parce que je l'ai déjà dit dans une émission précédente, mais les artistes en général font de la mondialisation réaliste, c'est la seule qui soit vraiment respectable, pas celle des chiffres et des économistes, évidemment celle-ci ne peut pas marcher. La mondialisation par admiration mutuelle, ça fonctionne. Et c'est ce qui s'est passé. Moi j'admire le jeu de Chamal, Chamal il admire ce que je suis capable de faire, et dans cette admiration mutuelle, on arrive à trouver un contact, du coup le contact se fait immédiatement par-dessus même la culture. Alors évidemment, le fait que l'un connaisse la culture de l'autre, ça aide, mais c'est pas ça qui est prépondérant. Ce qui est prépondérant, c'est qu'il y a cette admiration et cette envie d'être dans le son et dans la musique en commun. Et là, la musique, là, on se comprend à travers la musique. Même si je rencontrais quelqu'un, un Afghan que je connais pas, mais dont j'écoute la musique, il se passerait quelque chose entre lui et moi, c'est certain. Et chez Chamal, c'est la même chose. On fait de la mondialisation par admiration mutuelle, en fait, c'est ça.
Et c'est aussi ce que vous avez ressenti justement quand vous avez voyagé en Inde et quand vous êtes parti. Vous n'aviez pas du tout d'idée de ce que vous alliez découvrir et vous étiez admiratif. Non.
Bien sûr, ce qui se passe. Alors l'Inde en plus, ça a été pour moi un voyage fantastique parce que je ne sais pas comment exprimer ça très clairement. Je vais le dire comme ça. Elle m'a pris là où j'en étais, sur le plan de mes capacités de comprendre le monde et de connaître. Et elle m'a emmené un petit peu plus loin. Mais elle a fait ça bien mieux que nous on fait ça en France, c'est curieux. Par exemple, un jour j'étais avec ma guitare en train de boire un chai, un thé sur le bord d'une rue, et puis il y avait en face de moi un garçon du même âge à peu près que moi, j'avais à l'époque 28 ans, il devait avoir le même genre d'âge, et il me dit « qu'est-ce que tu as là dans ton étui ?» Ben, je dis « c'est une guitare à 12 cordes ». Il dit « ah tiens, à 12 cordes, ah, je connais pas, tu veux bien me montrer ?» Me voilà en train de lui jouer un petit morceau. Et puis il me dit « ah, c'est pas mal ce que tu fais. Bah écoute, moi je suis un élève de la faculté, je vais prendre un cours là avec un des très grands maîtres de l'Inde, en fait, en l'occurrence, mais ça je ne savais pas. Bah viens avec moi. » Et la faculté de musique de Bénarès, c'est un peu comme notre conservatoire supérieur de musique. Donc on arrive au cours, et puis le prof me dit « ah tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ton étui ?» Bah je dis « c'est une guitare à 12 cordes. » Il me dit « ah tiens, c'est pas très courant ça, joue-moi un morceau. » Je joue, il me dit « ah c'est pas mal, c'est pas trop mal. Ben moi je joue de la vina, je vais te montrer quand. » Les élèves écoutaient, les élèves qui étaient là, ils écoutaient. Et le cours c'était la rencontre entre ce monsieur qui est un très grand musicien et moi qui débarquais là. Et donc ça ce sont des expériences qui élèvent évidemment. Et j'essayais d'imaginer un Indien arriver à Paris dans le métro avec un sitar dans un étui. Et puis il y a un gars qui lui dit « tiens, qu'est-ce que t'as ?»« Ben, c'est un sitar, tu manges un morceau ?»« Ben non, hein, ça marche pas, ça se fait pas à Paris. Hein. »« Ah ben tiens, je t'emmène dans mon cours et puis mon prof va te recevoir. » Non, ça se fait pas chez nous ça, il n'y a pas cette spontanéité là. Et donc ça j'ai adoré, ça m'a... L'Inde m'a emmené vraiment quelque part. Et pourtant, j'allais là-bas en me disant « je suis musicien professionnel, j'en ai marre, je voulais arrêter ce métier ». Et c'est l'Inde qui m'a redonné le goût et l'envie, et encore plus fort, de jouer. Et puis j'ai découvert la notion du son, parce qu'ils ont quand même une notion du son qui est beaucoup plus développée que nous. Hein. Nous, on avait cette notion jusqu'au Moyen-Âge, mais on l'a un petit peu abîmée. Mais ça, j'en ai parlé dans une précédente émission aussi. On l'a un petit peu abîmée en voulant jouer de beaucoup, beaucoup d'instruments en même temps et en sortant de la musique modale, en fait. On a construit des nouvelles choses qui sont fantastiques et qu'il n'y a pas à remettre en question, évidemment. J'ai pas de jugement de valeur.
Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est vraiment musique modale pour nos auditeurs, justement ?
Allez, Chamal. Vas-y. Musique modale. Ah là, ça, c'est difficile. Autrefois... On ne jouait qu'une seule note en même temps. On ne jouait pas deux, trois notes en même temps. À ce moment-là, on pouvait se permettre d'utiliser les notes, non pas qu'on invente, mais des notes qu'on a trouvées dans la nature. Quand il y a un do, quand on fait un do, en fait, le do est composé d'une infinité d'harmoniques, de petites notes qui, réunies entre elles, vont donner la sonorité de ce do. Et donc, quand on fait un do, mais il y en a un certain nombre d'harmoniques de ces petites notes qu'on entend quand même si on écoute, si on dresse bien l'oreille. Et il y en a qui sont plus faciles à entendre que d'autres. Il y en a une qui est la plus facile de toutes, on l'appelle la première harmonique, puis ensuite la deuxième harmonique, la troisième, etc. Et donc, quand on fait un do, on entend le do à l'octave au-dessus. Ça, c'est la deuxième, c'est la première harmonique. Puis la deuxième, c'est le sol qui est encore au-dessus. Donc, quand on fait un do, on entend un sol. Donc après, si on fait un sol, on va entendre le sol au-dessus, puis après, encore au-dessus, le ré. Ah, donc on va découvrir le ré. Les hommes de la préhistoire ont découvert les notes de musique comme ça. Lorsqu'ils les ont utilisées les unes après les autres, c'était superbe. Lorsqu'ils ont voulu mélanger beaucoup ces notes entre elles, en les faire en même temps, comme par exemple, voulait le faire, par exemple, le clavecin bien tempéré, c'était dans un processus là de tempérament, c'est-à-dire de ce qui se passait, c'est que quand on faisait deux dos en même temps, il y a une petite vibration qui nous semblait désagréable à l'oreille. c'est culturel, mais enfin c'est réel aussi. Et donc on a réduit l'écart entre les deux, et là il n'y avait plus de vibrations, donc ça nous semblait plus joli. Seulement en réduisant l'écart, bah, du coup on a dû réduire entre do et ré, ré et mi, etc. D'un mini quelque chose, mais ça a altéré la qualité du timbre. Et par contre, ça nous a permis de jouer, de construire des orchestres jusqu'aux orchestres symphoniques. Donc la musique modale, c'était avant. On a une musique, nous, qui est symphonique, voilà, et on a la musique modale, c'est une musique où on reste dans une même tonalité depuis le début jusqu'à la fin. Par exemple, si on joue en do, ce sera do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ce sera les notes, seules notes qu'on va jouer. Et par contre, on va complexifier énormément le timbre, justement, l'organisation des notes entre elles, et puis et le rythme. Mais on ne va pas en faire plusieurs en même temps. Par contre, quand on veut parler de notion de musique modale, moi, ce que je crus apprendre en Inde, ce qu'on m'a expliqué aussi après et avant, c'est qu'un mode, ce n'est pas une gamme. Un mode, c'est un état d'être humain. Il y a l'état dans lequel on est, juste au moment où le soleil se lève au-dessus de l'horizon, ah, ça nous met dans une ambiance un peu comme ça, là. Ah, voilà, ça c'est le raga de cette ambiance-là. Le raga étant une base improvisative de la musique classique de l'Inde du Nord. Après, il y a le moment où le soleil, il est déjà bien plus haut dans le ciel, là on est dans un autre état, c'est plus là. Alors là, ce sera une autre ambiance. Et donc, telle gamme va nous créer cette ambiance. On va se retrouver tous un peu dans cette ambiance-là, grâce à cette façon de jouer de la musique-là. Puis après, il y a le moment, enfin, il y a tous les moments de la journée, et même de la nuit. Donc, le mode, chaque mode est un état bien particulier. C'est ce que souvent on confond chez nous, parce que les jazzmen parlent de mode aussi, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout... les modes pour eux sont plutôt des gammes, des notes qui sont... des choix de notes qu'ils vont utiliser. Dans la musique modale qui existait chez nous avant, hein, jusqu'au Moyen-Âge, c'est vraiment un état, c'est un état d'être avant toute chose. Je suis très bavard, hein.
Non, mais c'est ça.
Ça va ?
C'est ça. Chaque mode correspond à un moment de journée. Oui. Et puis après chaque mode, il donne nous au raga qui correspondent aux saisons, le moment de journée, la nuit. Il y a autant de modes qu'il y a autant de raga.
Voilà. Et un raga, c'est quelques notes qui se suivent, qui forment une mélodie,
voilà,
autour de laquelle on va improviser le plus longuement possible. Et là, l'art de cette improvisation-là, comme l'art de toute improvisation, c'est quelque chose qui se travaille toute une vie.
Et toutes ces improvisations... chaque musicien en Inde est un improvisateur, mais il a des règles. C'est ça qu'on apprend toute une vie.
Ouais.
Il a des mêmes notes, mais c'est pas les mêmes modes, parce qu'on utilise beaucoup de microtons. Mm-hmm. Par exemple, dans un raga de nuit, il y a do ré mi fa sol la si do, mais la ré est un peu plus haut, mais c'est pas mi bémol.
C'est
un autre ré haut.
C'est un ré un petit peu haut qui va faire une petite tension supplémentaire là, parce qu'il y a besoin de cette tension.
Et dès qu'il en joue telle qu'elle est, c'est plus la même raga, parce qu'il y a un autre raga avec les mêmes notes.
Mais sans cette tension à cet endroit-là,
voilà,
c'est plus du tout
donc
pareil.
Donc on a 22 microtons. On a les 12 notes, mais plus 22 microtons.
Et qu'est-ce que vous avez fait de toutes ces règles, justement, Shaimal, quand vous êtes arrivé à Paris ?
On a fait un grand plat de curry avec beaucoup de masala, on l'a mangé. Et on essaye toute une vie de digérer ça.
Donc même à Paris, c'est ça ?
Même à Paris, voilà. Ouais.
Et est-ce que vous avez vécu des expériences similaires, comme nous racontait Michel, justement dans la rue, dans le métro, de rencontres comme ça d'autres musiciens ?
Pas vraies rencontres, mais j'ai entendu et puis discuté avec des très 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 bons musiciens qui sont devenus assez renommés quand même. Par exemple... il avait un joueur de harmonica, Sugar quelque chose, j'ai oublié, Sugar Blue. Il a fini par jouer avec Rolling Stones. Hein. Et il était, quand je suis arrivé à Paris, j'étais étonné, j'ai jamais vu ça dans le métro, les gens qui jouaient, balafon, harpe, toutes sortes d'instruments. C'est une très 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 bonne école. En anglais, on dit basking, a basking musician, parce que c'est la meilleure école.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de cette guitare à 12 cordes, Michel? Oui.
Alors la guitare à 12 cordes, elle est utilisée par la plupart des gens comme une 6 cordes. Alors qu'en fait, c'est...
Ça ouvre des possibilités, non? Oui, on se oui. dit, il y a beaucoup plus de cordes, il y a beaucoup plus de possibilités sonores.
Exactement, c'est l'ancêtre de la guitare. Puisqu'autrefois, les instruments à cordes fonctionnaient toujours par au moins 2 cordes, on appelait ça des chœurs. Il n'y avait jamais une seule corde à la fois, c'était toujours 2 ou voire 3. Par exemple, Louis XIV jouait de la guitare baroque, c'était 5 fois 2 de cordes. Donc ça permet au son d'être plus riche, beaucoup plus riche. Et donc quand on joue de la 12 cordes, on a 12 cordes, les 6 cordes habituelles et 4 cordes. Alors chacune d'entre elles est doublée. Les 2 aigus parlent la même, rigoureusement parlent la même, donc à la limite on peut les confondre. Mais par contre les 4 graves sont doublées par la même note mais une octave au-dessus. Donc là ce sont des nouvelles cordes, 4 nouvelles cordes. Donc en fait c'est une guitare à 10 cordes.
10 cordes.
Et quand on joue avec les doigts séparément à la main droite, c'est-à-dire le pouce, index, majeur, annulaire, alors là on peut choisir les cordes facilement, une par une. Et c'est là l'intérêt, donc du coup on a un choix de 10 cordes au lieu d'avoir un choix de 6. Ce qui évidemment était énormément plus. Quant à la main gauche, elle appuie par contre toujours sur 2 cordes en même temps, donc plus fatigant que la 6 cordes. Mais quand on veut jouer de la 12 cordes comme une 12 cordes, à ce moment-là, par rapport aux techniques habituelles de la 6, disons pour simplifier que la main gauche est relativement simplifiée et la main droite relativement complexifiée. C'est-à-dire,
Est-ce que c'est des logiques différentes ou est-ce qu'un guitariste à 6 cordes peut très facilement jouer aussi de la guitare à 12?
Alors, c'est toute l'ambiguïté de la question. C'est qu'un guitariste 6 cordes peut jouer de la 12 comme une 6, mais pas facilement, ça lui fait mal à la main gauche. Par contre, ces techniques de 6 cordes vont lui être utiles. Et il existe des techniques spécifiques, donc une autre logique de fonctionnement de l'instrument 12 cordes, qui vont, ces techniques-là, se superposer aux techniques habituelles de la 6. Autrement dit, quand on joue la 12, on a parfois un côté, c'est presque comme de la 6, et puis à d'autres moments, ça n'a rien à voir. C'est carrément... Donc il faut intégrer une nouvelle logique, et lorsqu'on a intégré cette nouvelle logique, ça devient très fluide et très facile à jouer. Et alors en plus, ça prend des proportions, c'est un univers extraordinaire, ça. Une 12 cordes dans une salle, moi je pratique les deux, donc je fais des concerts souvent seul. 6 cordes, 12 cordes, principalement 12, mais je sais très bien que quand je passe à la 6, je n'emplis pas la salle comme quand je suis sur la 12. Dès que j'arrive sur la 12, boum, ça prend, l'espace est énorme. Alors que la 6, c'est beaucoup plus réduit, ça a ses avantages et ses inconvénients, j'aime bien les deux instruments, c'est pour ça que je les pratique, mais c'est quand même une différence qu'il faut connaître, quoi. Et voilà.
Justement, sur votre main droite, oui. C'est parce qu'il y a plus de cordes, j'ai vu que vous aviez comme des sortes de...
Ouais,
c'est entre le médiator et le dé à coudre, je trouvais.
Ah oui, c'est pas mal, voilà. C'est bien vu.
Plusieurs dés à coudre sur chaque doigt de votre main droite.
Des onglets qui remplacent les ongles. Non, mais ça, c'est un choix que j'ai fait parce que, bêtement, un jour en montagne, quand j'avais 17 ans, j'ai pris une baramine sur mon ongle du majeur et l'ongle est devenu tout bleu. Puis j'ai eu un tout début de gangrène avant de revenir me faire sortir d'affaire par un médecin 2000 mètres plus bas, j'étais un petit peu en altitude. Et finalement, il n'a jamais repoussé comme... à l'origine, il est devenu plus dur et un petit peu plus arrondi. Et du coup, j'ai pas le même son sur cet ongle-là que sur les autres. Donc ça me gênait, donc j'ai décidé de me mettre aux onglets. Je ne le regrette pas parce que, évidemment, ce sont des prothèses supplémentaires, donc c'est encore une distance avec l'instrument, mais on peut l'apprivoiser quand même, on peut jouer tout aussi finement avec des onglets, avec le temps. Et
on sent pas, on n'entend pas ce son métallique justement sur la corde.
Et c'est très curieux ça, parce que je pense qu'avec le temps, on apprend instinctivement à le faire entendre moins. Et d'autre part, il y a le côté psychologique de l'écoute qui veut que de toute façon, l'auditeur, il entend quand même la note qui veut être jouée. Et il finit par faire abstraction de ce côté métallique. Mais il existe toujours un petit peu, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, je ne suis pas, comment dire... J'ai suivi ce chemin-là, c'est pas pour autant que je le conseille à tout le monde. Je veux dire, chacun fait avec les techniques qui lui correspondent le mieux. Pour moi, ça m'a bien correspondu. Et c'est vrai que j'ai pas éprouvé même le besoin de jouer au médiator. Donc, c'est vrai aussi, position indiscutable, que quand on joue avec la pulpe des doigts, on a un son qui est plus doux. Et je ne me rêve jamais ce son précis-là avec mes onglets. Par contre, j'aurais d'autres choses. Les onglets peuvent avoir, peut-être on peut parler d'une différence dans un sens positif pour les onglets, c'est que comme ils se terminent tous exactement de la même façon, ils ont exactement la même forme et qu'il y a très peu d'usure, Je m'affranchis des problèmes d'ongles qu'ont beaucoup de guitaristes. J'ai plus de problème. J'ai plus besoin de me rafistoler mes ongles pour que ça y ait ça. Et aussi, je peux donner de la puissance que je pourrais peut-être pas avoir avec les ongles seuls. Donc voilà, c'est un avantage, mais il y a d'autres inconvénients. Donc toutes les techniques sont bonnes. Hein. Tout dépend de ce qu'on a à exprimer, c'est tout. Hein.
Et vous, Chaïmal, vous êtes percussionniste, mais pas que.
Voilà, mon instrument principal, c'est tabla. Tabla indienne.
C'est écrit
T-A-B-L-A. D'accord. Tabla. C'est assez très connu comme instrument. C'est carrément l'instrument de percussion de l'Inde qui est mondialement connu, qui est utilisé dans toutes sortes de musiques. L'apprentissage est oral, comme toute la musique en Inde. Et donc, il a fallu apprendre toutes les frappes qui correspondent à des syllabes. Après, on fait des mots, ensuite des phrases. Et c'est comme des ragas aussi, il a deux sortes de compositions. Il a des compositions fixes et il a des compositions à thème et variation. C'est comme, et là on rejoint aussi des ragas et aussi la jazz, des compositions jazz. Il a quatre lignes, une composition basée sur un cycle rythmique assez défini. Et après on improvise autour des notes qui sont dans cette composition. Voilà.
Bon, et le gong et les cymbales.
À part ça, après arrive un
moment.
Après, c'est très large, ça devient énorme à niveau de son. Et, très, très, très riche en son. J'ai des gongs, j'ai des gambards, des sansa, mâchoire d'âne.
Mâchoire d'âne.
Et on utilise aussi beaucoup d'éléments comme du vent, de l'eau.
C'est quoi la mâchoire d'âne?
Mâchoire d'âne, c'était une mâchoire, vraie mâchoire d'âne qui vient de Colombie. Et c'est un instrument de musique. C'est l'ancêtre de vibra slap qui on trouve partout, qui fait un son. Voilà. Moi, j'ai une vraie avec des dents qui bougent, les dents qui tombent.
Ouais, je suis surpris parce que ça fait même pas peur aux gamins, c'est terrible.
Voilà.
Moi, ça me fait peur. Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut citer
On utilise aussi des choses assez qui on trouve partout, des gaines d'électricité, plein de tuyaux.
Après, il y a les graines de baobab.
Des graines de baobab, des sabots de chèvre.
Des chèvres qui perdent leurs sabots tous les ans. Hein.
Voilà.
On va pas arracher les sabots, c'est pas notre genre. Il y a plein de sons, plein d'instruments.
Ouais.
Pour nos auditeurs, on va quand même les mettre dans l'ambiance, justement, et leur donner le goût, leur donner l'envie de venir demain soir, parce qu'il y a un concert, donc vendredi 18 avril.
À 20h.
À 20h.
À l'ancien Baradi, qui s'appelle maintenant Andarta. Andarta, c'est un joli nom, c'est le nom d'une déesse gauloise. Donc c'est l'ancien Baradi, 57 rue Émile Laurent, c'est 20h, à 20h.
Et quel titre voudriez-vous pour nos auditeurs?
Flamenco Indien.
Flamenco indien, c'est parti.
Guitare 12 cordes et tabla.
Super, c'est parti. Thank you. pendant qu'on écoutait la musique, qu'est-ce que vous disiez
Je disais,
Jaimal,
musique, c'est pas une mode, c'est une mode de vie, mode de la vie.
Un mode de la vie.
Voilà. Et
qu'est-ce que vous entendez par là?
Parce que musique, comme la vie et l'amour même, ça s'improvise.
C'est ça. Oui.
Mais la fil conducteur de notre duo, c'est même le silence est rempli de son. Donc, par exemple, si vous êtes dans un frigo, écoutez le son dans la cuisine.
Il n'y a pas une seule note dans un frigo, il y en a au moins deux ou trois. Et ça, c'est ce qu'on explique aux enfants. Et les adultes, ils ne sont même pas au courant. Quand même, c'est incroyable. On vit à côté d'un... voilà, et on est tout le temps environné de choses dont on n'a pas conscience sur le plan du son. En fait, on est très sourd. Et plus on est sourd, moins on comprend le monde et moins on comprend les autres. Et plus on s'énerve et plus la guerre se rapproche. Donc la musique, c'est aussi une... c'est pas simplement que ça adoucit les mœurs, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est aussi
une attention de tous les jours aussi.
Oui, tout à fait. Oui, absolument. Et un effort, un petit effort de tous les jours, mais qui est largement récompensé par la conscience qui se développe et notre intelligence qui s'en développe justement d'autant.
Et aussi, c'est là qu'il rejoint la méditation. On cherche le silence, mais on voit qu'il y a encore du son. Et petit à petit, on l'intériorise pour écouter le son à l'intérieur.
On fait nous-mêmes du bruit, du son.
Oui,
mais c'est vrai.
Nous sommes son aussi.
Oui.
Et quand vous disiez aussi que c'était qu'on menait l'improvisation, qu'on menait le chemin du son, comme on mène une vie ou comme on mène l'amour, c'est exactement ça à quoi vous pensez quand vous faites vos concerts, comme si chaque concert était un chemin, un souffle de vie.
Voilà.
Ah ouais, ouais,
et aussi, tous les jours, il faut inventer un petit peu.
C'est ça, le côté créatif, la vie est créativité. Sans créativité, on est mort.
Donc, et c'est valable pour tout le monde,
ouais,
pas que des musiciens.
Et tout le monde est musicien.
Voilà.
Mais vous, la musique, c'est ce qui vous aide à être créatif et à développer ce côté, peut-être. Et chez d'autres personnes, ça sera peut-être autre chose que le son, que la recherche d'un nouveau son.
Tout à fait, oui, oui. Tous les arts en général, hein, là, oui, effectivement, on peut généraliser ça aux arts.
Ouais.
L'art est une... c'est pas un plus dans la vie, c'est une nécessité de base. Sans art, on mourrait. Donc, faut pas qu'on l'oublie. Aujourd'hui, on est dans une période où on a tendance à l'oublier.
Ouais.
Et du coup, c'est suicidaire. Donc l'art, moi j'ai...
Vous avez déjà essayé de mélanger justement plusieurs arts, votre musique avec du théâtre, de la peinture, des spectacles,
tout à fait,
etc.
Tout à fait, ouais. On adore ça, parce qu'on on se développe d'autant plus et il se crée une alchimie après que nous-mêmes ne comprenons pas toujours. Hein, mais il faut cesser de vouloir tout comprendre, sinon c'est pareil, on ne s'en sortira jamais. Il faut juste avoir la chance de pouvoir voir ce qui se passe, c'est déjà quelque chose, et se laisser aller dedans. En fait, c'est quelque chose comme ça, plus que quelque chose qu'on contrôle complètement. À la fois, notre travail, réellement travail de musicien, quand on veut, par exemple, improviser, c'est un véritable travail. Là on travaille. Mais, et là, on comprend notre travail. Mais par contre, quand on est dans l'instant, qu'est-ce que vous voulez expliquer? Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Comment fonctionne une vie?
L'observation est beaucoup plus importante que l'intellectuel à ce moment-là.
Voilà, l'intuition joue pour beaucoup, d'où le titre de notre spectacle « Intuition », parce que c'est l'intuition par le son. Mais évidemment, tout est concerné, pas seulement le son, bien sûr.
Est-ce que vous pouvez me parler un peu justement de ces émotions, de ce ressenti que vous avez quand vous êtes en concert?
Ah, ce sont des états. Par définition, c'est impossible de mettre des mots sur des états. Alors, c'est très imparfait ce qu'on va dire, mais on va essayer de dire quelque chose. Jaimal, tu commences.
Moi, j'aimerais bien citer un grand poète indien, je pense que vous avez entendu parler, Rabindranath Tagore. Il a dit, c'est souvent en jouant la musique que j'avais un aperçu dans l'éternité.
Ah, voilà.
C'est joli.
Hein. Ouais, ouais.
Mais ça montre une vision très lointaine.
Oui.
Il y a ce qui se passe.
Ouais. La musique est un lien entre le monde visible et le monde invisible.
Et vous, Michel, vous voulez rajouter quelque chose sur votre état?
Sur mon état, d'abord, c'est plusieurs états différents. J'ai l'impression que nous sommes des instruments, nous aussi, les musiciens et nous, les artistes. Des instruments d'une force qui, finalement, ou deux forces au pluriel, qui nous dépassent largement. Et à nous d'être simplement assez sensible et ouvert pour pouvoir retransmettre cette chose-là. Et donc on est un peu des passeurs peut-être, sans pas trop se prendre au sérieux là-dedans, parce que c'est toujours pareil, dès qu'on commence à se prendre au sérieux, c'est fini, il n'y a plus rien du tout. Mais je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc les artistes sont des passeurs, mais tout le monde est artiste quelque part, donc tout le monde est passeur. Et la vie fonctionne comme ça, donc c'est pas que nous là, il n'y a pas de...
Mais dans les instruments, peut-être qu'on a aussi, on ressent encore plus le fait que c'est la guitare parfois ou les percussions, la tabla qui prend position et après qui joue quasiment toute seule ou je sais pas, on sait pas vraiment ouais. De vous ou oui. De l'instrument
c'est
qui joue
juste.
Le plus fort.
Oui, c'est ça.
C'est ça l'échange parce que quand on joue ensemble ou quand deux musiciens en général qui jouent ensemble. C'est naturellement, il y a des places pour chacun. Parce que quand on improvise, on regarde le contact, on écoute.
On écoute beaucoup.
Et si, donc, il y a des moments où chacun prend ça, qui monte plus.
C'est voilà. Ça. Il y a un moment, Chamal ouais. Va être là, c'est lui qui va être en avant. Moi, je vais. Et puis après, voilà. Tout naturellement, dans la logique même de ce qui se fait, on ne sait pas trop pourquoi. On contrôle qu'à moitié ça. Hop, à un moment donné, plouf, ça va être l'inverse. Et si c'est bien, si on a bien travaillé nos techniques de musique avant, notre capacité d'improviser, du coup, ça va se produire tout naturellement. Et quelqu'un qui va écouter, si c'est réussi, va dire quelle belle composition. Et on lui répondra oui, une composition improvisée. Et il s'en sera pas rendu compte. Ça, ce serait l'idéal.
C'est une succession d'échanges entre vous deux, quoi. Et entre les instruments, entre vous deux, entre vos deux façons de jouer.
Et aussi avec ce que je disais tout à l'heure, c'est ces forces qui nous gouvernent et dont on a très peu, sur lesquelles on n'arrive pas beaucoup à qu'on n'arrive pas à influencer, qui nous influencent, aussi avec un lien avec tout ça, avec cette chose-là. Nous sommes des instruments avant tout, et on est au service avant tout.
Vous habitez dans la région, Michel ?
Moi, j'habite à Minglon depuis 22 ans, et je suis arrivé dans la région en 85 à Boulk pour 5 années. Et entre-temps, je suis reparti à Paris pendant 7 ans. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Chamal, d'ailleurs. Voilà.
Et
voilà.
Vous, c'est votre première fois dans la région, Chamal ?
Non. Moi, je viens ici depuis...
J'allais le dire.
Depuis...
Longtemps.
On a enregistré des choses ouais. ici. On a joué dans le ouais. temple de Minglon. Ouais. On a déjà
d'ailleurs, il concerts. Aimerait bien que j'y habite ici.
Ouais, parce que je trouve qu'à Paris, la bière est moins bonne, les concerts sont moins payés, les gens sont moins ouverts, tout le monde est en colère. Alors voilà. qu'ici,
on a moins de temps.
On a moins de temps.
Voilà.
Alors qu'ici, finalement, et il commence à... Bah, il le voit, hein, de toute façon. Alors, ce qu'il n'a pas dit, Chamal, quand même, qu'il faut peut-être préciser, parce que ça va interpeller du monde, c'est que tu as fait partie du groupe Gong, pour parler de ton origine, voilà. De tes débuts en musique en Europe.
Ouais.
Et ça, je te laisse faire quand même.
Gong, c'est un groupe aujourd'hui assez mythique. J'ai eu la chance de quand ils sont reformer le groupe dans les années 80. Moi j'ai intégré et puis continué avec eux jusqu'à peu près 94-96. Et maintenant, on vient comme guest quelques fois quand ils passent par la France ou à Paris. Voilà. Le groupe continue, il y a un double CD qui sort. Voilà. Et donc, les gens m'associent un peu avec Gong, qui est pas mal non plus. Voilà.
Et tu as joué avec toutes sortes de musiciens différents.
Et puis, j'ai
en
eu
jazz,
la chance de jouer avec. Ouais, dès que je suis arrivé, mais j'ai eu la chance de jouer avec Ravi Shankar, Pierre Boulez et Gong, parmi les gens qui sont assez connus. Voilà. Et pas une fois, mais vraiment des collaborations, j'ai appris beaucoup de choses.
Et maintenant, Michel Gentil.
Je suis désolé, voilà. Je suis moins connu, mais voilà. je fais de mon mieux.
Voilà. Dans quelques années, et dans d'autres interviews radio, Jamel dira, voilà. J'ai joué avec
Michel
voilà.
Gentil.
Ah,
c'est
voilà.
Du temps où il n'était pas trop vieux encore, voilà. Ça allait. Non.
Et donc, du coup, pour vous, juste, c'est important de jouer à 10. C'est celle-là où je voulais en venir, dans le sens où cette date, demain soir, pour vous, c'est toujours chouette, parce
bah,
que...
Oui. Et puis on avait fait un concert au théâtre le 6 décembre dernier et ça s'était tellement bien passé. Beaucoup de nos amis qui étaient là nous ont dit « Ah là là, mais il y a plein de gens qui auraient dû venir, etc. » Donc ça nous a donné envie de revenir et d'organiser quelque chose. Et puis j'aime beaucoup Valentina qui tient ce lieu depuis des années avec beaucoup de persévérance et de force. Et donc c'est un lieu, aussi ce lieu-là, c'est un peu le lieu où j'ai essayé tous mes premiers concerts, mes premières tentatives. Voilà, c'est vraiment loin d'être le cas. Mais voilà, c'est une façon à la fois de la remercier d'être là et puis de faire plaisir à ceux qui auraient bien voulu nous voir, qui ne nous ont pas vus. Donc il y a ce concert au Baradi à Ndarta. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ?
Un grand merci à Bérénice.
Oui, voilà. Un grand merci à Bérénice et puis aussi à la radio d'être aussi ouverte dans ses choix et de laisser tout le monde s'exprimer comme ça. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens ont besoin de dire et voilà, il faut des radios comme ça pour que ça se fasse. C'est malheureusement pas le cas dans des grandes radios, pas toujours. Donc il y a une grandeur dans cette petite radio-là qui est tout à fait respectable et qu'on peut remercier.
Très bien, bah merci à vous deux d'être venus jusqu'ici vous parler de musique. Je le rappelle, demain, vendredi 18 avril à 20h au bar Landerta à Die.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.